Bonjour et bienvenue dans cette synthèse audio des livres pour s'enrichir. Aujourd'hui, nous allons aborder Rich Kids, Smart Kids, écrit par Robert T. Kiyosaki. Robert T. Kiyosaki est l'auteur de Nos enfants riches et brillants. Également auteur de Père riche, Père pauvre, l'un des ouvrages les plus célèbres sur la liberté financière, Robert T. Kiyosaki anime régulièrement des conférences où il met à mal les mythes entourant l'indépendance financière et apprend aux parents à enseigner à leurs enfants comment atteindre l'indépendance financière. Pensez-vous que l'école prépare correctement vos enfants au monde qui les attend? Souhaitez-vous leur offrir un bon départ dans la vie? Vous voulez savoir comment leur apprendre à survivre et se débrouiller financièrement, même s'ils n'aiment pas l'école, s'ils ont de mauvaises notes ou s'ils ont des difficultés d'apprentissage? Nos enfants riches et brillants s'adressent aux parents qui, comme vous, entendent jouer un rôle actif dans l'éducation financière de leurs enfants. Robert T. Kiyosaki prodigue dans son livre de nombreux conseils aux parents afin de les aider à préparer leurs enfants à affronter le monde qui les attend à l'issue de leurs études. Pendant l'âge industriel, vous pouviez fréquenter l'école, obtenir votre diplôme et avoir l'assurance de faire carrière. Aujourd'hui, des millions de baby-boomers s'apprêtent à prendre leur retraite et réalisent qu'ils n'ont pas les outils pour faire face au monde actuel, souligne l'auteur, qui entend au travers de Nos enfants riches et brillants donner à vos enfants les outils nécessaires pour ne pas se retrouver dépourvus quand viendra l'heure de la retraite. Pour cela, il faudra suivre ces 8 étapes. Étape numéro 1. Votre enfant est-il un génie? On connaît tous de jeunes parents convaincus que leur enfant sera le nouveau Michael Phelps, champion olympique de natation, ou encore le prochain Kylian Mbappé, champion du monde de football. Et pour cause, ils peuvent vous parler, des heures durant, des progrès d'apprentissage hors normes de leur petite tête blonde, de leur don exceptionnel pour le dessin ou encore de leur intelligence au-dessus de la moyenne. Vous avez sans doute noté la fierté dans leur regard, mais également tout l'amour qu'ils nourrissent pour leur progéniture. Cela se traduit le plus souvent par des encouragements, des gestes tendres et des félicitations chaleureuses lorsque ceux-ci réussissent à franchir un nouveau palier dans leur apprentissage. En clair, tous les parents sont intimement convaincus que leur enfant possède un quotient intellectuel, QI, élevé. Si tel est votre cas, prenez quelques minutes et réfléchissez à ces deux questions. Avoir un QI élevé garantit-il de réussir dans la vie ? Que votre enfant soit doté d'une grande intelligence signifie-t-il qu'il sera forcément à l'aise financièrement? Vous avez certainement raison de vous réjouir si votre enfant est brillant, mais cette intelligence ne lui sera pas d'une grande aide dans la vie si vous ne lui inculquez pas une éducation financière qui lui permettra plus tard de gagner son indépendance. Tout aussi important que le quotient intellectuel, le QI financier est en effet essentiel et il vous faut le cultiver chez votre enfant. Qu'est-ce que le QI financier ? Mais comment mesure-t-on au juste le QI financier d'une personne? Est-ce en mesurant le montant de son salaire et de ses avoirs? Ou alors en prenant en compte le genre de véhicule qu'elle possède ou par la taille de sa maison? Rien de tout cela. L'intelligence financière, explique Robert T. Kiyosaki, ne se mesure pas à l'argent que vous gagnez, mais bien à l'argent qu'il vous reste à la fin du mois et que vous faites travailler pour vous. Et d'ajouter, vous savez que votre intelligence financière augmente si en prenant de l'âge, votre argent vous procure plus de liberté, de bonheur, de santé et de choix dans la vie. Il est donc essentiel de ne pas confondre intelligence et intelligence financière. Et pour cause, nombreuses sont les personnes intelligentes à crouler sous les dettes parce qu'elles ne possèdent pas un QI financier suffisamment élevé pour gérer leur argent avec clairvoyance. Vous l'aurez compris, l'intelligence ne garantit pas de réussir dans la vie. Encore faut-il s'éduquer et cultiver de nombreuses autres qualités. En 1930, l'Institut Carnegie a mené une étude pour comprendre ce qui se cachait derrière la réussite de certains individus. Cette étude a ainsi révélé que la contribution de l'expertise technique au succès ne s'élevait qu'à 15%. Concrètement, cela signifie que si un chirurgien a plus de succès que ses confrères, cela ne s'explique pas nécessairement par son degré d'intelligence ou son parcours scolaire. En effet, cette même étude a révélé que 85% de la réussite pouvait être attribuée à des aptitudes en ergonomie, soit la capacité à communiquer et à bien s'entendre avec les autres. Ces résultats, à bien y réfléchir, ne sont pas si surprenants. Il suffit de jeter un œil aux offres d'emploi pour comprendre que les critères liés à l'attitude et les aptitudes dans le domaine de la communication surpassent le plus souvent les compétences techniques, même si elles demeurent bien évidemment importantes. Étape numéro 2. Donnez à votre enfant du pouvoir. L'une des questions les plus souvent adressées à l'auteur est celle-ci. Est-ce qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent? Robert T. Kiyosaki répond à tous ceux qui se posent la même question que ce n'est pas le cas. Pour faire de l'argent, explique-t-il, il vous faut tout simplement avoir de bonnes idées. Et c'est justement cet enseignement que vous devez transmettre à vos enfants. Lorsque ces derniers vous demanderont de l'argent de poche plutôt que de leur opposer un « je n'en ai pas les moyens », optez plutôt pour un « comment pourrais-je avoir les moyens de te donner de l'argent de poche ?» De plus, prenez pour habitude de leur demander de dresser une liste de 10 choses, légales et morales, qu'ils pourraient faire pour obtenir de l'argent. Ces deux méthodes, assurent Robert et Kiyosaki, changeront la perspective qu'ont vos enfants de l'argent et leur ouvriront l'esprit aux nombreuses possibilités pour atteindre leurs objectifs dans la vie. Votre rôle en tant que parent est de donner à votre enfant le pouvoir d'influer sur le cours de sa vie. Pour y parvenir, il vous faut l'aider à prendre conscience de la perception que vous avez de lui. Si vous le percevez par exemple comme un génie, vous l'aiderez à être plus intelligent. Si vous le percevez comme riche, vous l'aiderez à devenir riche plus tard car il développera l'état d'esprit adéquat. Donnez donc à votre enfant le pouvoir avant de lui donner de l'argent de poche. Car en lui donnant de l'argent de poche, sans même provoquer chez lui une réflexion, vous lui enseignez à travailler pour de l'argent au lieu d'apprendre à créer pour de l'argent. Avez pour habitude le père riche de dire à l'auteur, souligne Robert T. Kiyosaki. Donner à votre enfant du pouvoir nécessite que vous déployiez son QI financier. Et l'un des meilleurs moyens d'y parvenir, estime l'auteur, est au travers de jeux de société. Robert T. Kiyosaki évoque plus particulièrement l'un d'entre eux. Le Monopoly. L'on ne présente plus ce jeu présent dans quasiment tous les foyers. L'auteur compare ce jeu à un devoir à domicile que doit régulièrement faire un enfant à la maison. Robert T. Kiyosaki explique que son mentor voyait, dans les 200 euros que reçoit un joueur lorsqu'il passe la case départ, le salaire que reçoit un employé à la fin du mois. Le but du jeu n'est pas d'attendre d'encaisser les 200 euros à chaque fois que vous passez par la case départ, mais bien d'investir en faisant l'acquisition de terrain, d'y installer des maisons et des hôtels et d'encaisser des rentes lorsqu'un autre joueur passe dessus. Au travers de ce simple jeu, il est possible de comprendre que ce n'est pas votre salaire qui vous rendra riche, mais bien ce que vous en ferez, fait ressortir l'auteur. Une leçon qu'a mise en pratique le mentor de Robert T. Kiyosaki tout au long de sa vie, comme il l'explique lui-même dans le livre. Pendant des années, j'ai pris l'argent que je gagnais grâce à mon entreprise et j'ai acheté des terrains et investi dans l'immobilier. Je gagne ensuite ma vie grâce aux revenus provenant de ces terrains et de ces biens immobiliers, tout en continuant à bâtir mes entreprises. Plus mes entreprises me rapportent, plus j'investis de l'argent dans l'immobilier. Voilà une formule de grande richesse. Pour mieux comprendre l'apprentissage par les jeux, l'auteur cite un passage de The Motley Fool Investment Guide, qui est selon lui l'un des meilleurs livres écrits sur l'investissement. En plus du plaisir qu'ils procurent et de l'interaction sociale qu'ils encouragent et favorisent, les bons jeux aiguisent votre intelligence. Ils vous obligent à réfléchir, à planifier, à risquer, parfois à deviner seulement ou à espérer, mais toujours, et c'est là toute la difficulté, les résultats et votre destinée sont étroitement liés à ces réflexions. L'acte d'agir et de gagner, ou celui d'échouer et d'apprendre, est un acte qui émerge naturellement de la pratique de ces jeux. N'hésitez donc pas à jouer avec vos enfants en Monopoly aussi souvent que possible, tout en leur prodiguant de précieux enseignements. Étape numéro 3, confiez à votre enfant des formules gagnantes. S'il n'existe pas de secret pour réussir, il est néanmoins possible d'inculquer à votre enfant ce que l'auteur appelle des formules gagnantes. Ces formules, au nombre de 3, accompagneront votre enfant dans son apprentissage de la réussite financière et professionnelle. Les voici. Une formule d'apprentissage gagnante. Une formule professionnelle gagnante. Une formule financière gagnante. Chaque enfant, fait ressortir Robert T. Kiyosaki, verra l'une ou l'autre formule s'appliquer à lui selon ses prédispositions pour les études ou le sport. Il vous appartiendra, en tant que parent, de suivre l'évolution de votre enfant dès son plus jeune âge. En effet, des recherches menées par Rudolf Steiner, un éducateur influent, ont démontré que vers l'âge de 9 ans, un enfant commence à développer sa propre identité. Durant cette période charnière, il arrive que l'enfant s'isole. Rudolf Steiner, dont la pédagogie d'enseignement est aujourd'hui appliquée au sein des établissements scolaires Waldorf, explique que, vers l'âge de 9 ans, il convient d'enseigner aux enfants des aptitudes pratiques de survie. Les enfants ont besoin de savoir qu'ils peuvent se débrouiller et survivre durant cette période où ils sont à la recherche de leur identité, explique l'auteur. Et de poursuivre, car s'ils ne parviennent pas à développer au cours de cette période un sentiment de sécurité, les répercussions peuvent influer de façon spectaculaire sur l'orientation et leur choix de vie. En donnant à votre enfant toute l'attention et tout l'amour dont il aura besoin pour s'épanouir, vous nourrirez chez lui ses aptitudes naturelles ainsi que l'envie d'en apprendre toujours plus. Cette curiosité, aussi bien au sujet des études que des connaissances générales, lui permettra plus tard de pouvoir continuer à progresser, acquérir de nouvelles compétences et s'adapter aux défis qui se présenteront à lui tout au long de sa vie. Étape numéro 4. préparer votre enfant à la dure réalité. Lorsqu'un parent imagine l'avenir de son enfant, il l'imagine presque toujours obtenir un diplôme, décrocher un emploi, être un employé modèle, progresser dans la hiérarchie professionnelle et y rester jusqu'à sa retraite. Mais l'idée d'un emploi à vie qui date de l'ère industrielle n'est malheureusement plus d'actualité. En effet, il semble aujourd'hui que plus un salarié prend de l'âge, moins il est précieux pour son entreprise. Il y a donc fort à parier, fait ressortir Robert et Kiyosaki, que votre enfant sera dépassé à l'âge de 30 ans et aura donc besoin d'apprendre une nouvelle formule gagnante professionnelle afin d'être à même de suivre les changements professionnels réclamés par le marché. L'avenir n'appartient pas à l'enfant qui termine ses études avec les meilleures notes. Il appartient à celui qui possède la meilleure formule gagnante d'apprentissage, souligne l'auteur. Ce dernier explique en effet qu'il est important pour un enfant d'apprendre à apprendre, afin de pouvoir s'adapter au marché du travail et acquérir de nouvelles compétences facilement lorsque ce sera nécessaire. Mais pourquoi, pensez-vous? Il suffit pour le comprendre de voir que les métiers qui recrutent le plus aujourd'hui sont liés au web et à l'informatique. Or, ces matières n'étaient pas enseignées à l'école il y a encore 10 ans. Ces entreprises du web, qui génèrent aujourd'hui des milliards de dollars, pourraient pour la plupart ne plus exister lorsque votre enfant aura 30 ans. Vous en doutez? Regardez plutôt. En 1900, il y avait 485 constructeurs automobiles. Il n'en restait que la moitié vers 1908. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une petite dizaine. En 1983, il y avait environ 40 fabricants d'ordinateurs aux États-Unis. Il n'en reste que 4 aujourd'hui. En 1983, Burroughs, Commodore et Zenith étaient les leaders émergents de la technologie informatique. De nos jours, la grande majorité des jeunes qui travaillent dans ce secteur n'ont jamais entendu parler de ces entreprises. À quel âge votre enfant sera-t-il trop âgé? On ne s'en rend pas toujours compte, mais le marché du travail impose aujourd'hui des dates de péremption sur les salariés. Un journal australien, le West Australian, a ainsi publié dans son édition du 8 avril 2000 une liste de professions associées à l'âge où un salarié est considéré trop âgé. Concepteur graphique, trop vieux à partir de 30 ans. Gymnaste, trop vieux à partir de 14 ans. Avocat, trop vieux à partir de 35 ans. Mannequin, trop vieux à partir de 25 ans. L'article en question expliquait que bien des carrières tombent dans des pièges qui peuvent faire dérailler une carrière à 20, 25, 30 ou 45 ans. Cela se produit habituellement bien avant la retraite. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. Les pièges physiques. Les charmes d'un mannequin se fanent, le corps d'un autre à l'allure sportive n'a plus la souplesse d'avant. Les pièges d'ordre mental. Le mathématicien qui commet des erreurs plus souvent, le publicitaire et le concepteur prodige dont les idées ne rapportent plus beaucoup. Les pièges liés à la résistance. Un spécialiste des services de banque d'investissement ou un avocat exténué, divorcé et épuisé professionnellement vers l'âge de 40 ans. L'article du journal poursuivait ainsi « De nos jours, la vérité est que si vous ne réussissez pas vers 40 ans, vous ne réussirez jamais. Et dans certaines industries, vous saurez vers 20 ou 25 ans si vous devez vous mettre à envisager un nouveau départ en créant votre propre entreprise de tonte de gazon. Trop de gens s'échinent chaque jour à travailler dur dans un emploi sans avenir. Car même s'ils parviennent à gagner un salaire confortable, ils ont, à un moment donné, trébuché sur un fil piège sans s'en rendre compte, les privant ainsi de l'échelle qui les mène vers le sommet de la réussite professionnelle. Tout en donnant à votre enfant les outils pour réussir, vous devez dans le même temps les préparer à la dure réalité du monde et leur enseigner de toujours garder sous le coude des portes de sortie. Mais attention, les règles qui s'appliquent à l'époque où vous avez débuté votre carrière ne s'appliquent plus aujourd'hui. Il est donc essentiel que vous preniez conscience de cela, car le marché du travail a évolué et la façon dont la nouvelle génération voit les choses est différente de la vôtre. En effet, alors que pour l'ancienne génération la sécurité d'emploi prévaut, la nouvelle génération préfère avoir une liberté d'action. Là où leurs aînés se cantonnaient à un seul et unique emploi, les jeunes n'hésitent pas à changer régulièrement d'employeur. La nouvelle génération ne se forme plus seulement à l'université, mais assiste régulièrement à des séminaires pour acquérir de nouvelles compétences et se tenir au courant de l'évolution de son secteur. Vous l'aurez compris, vos enfants auront bien plus d'options que vous n'en avez jamais eues, et il faut les préparer à faire le bon choix. Étape numéro 5, enseignez à votre enfant à soigner son bulletin financier. Dans un monde où la réussite scolaire est d'une importance capitale, il est nécessaire de prendre quelques minutes pour remettre les choses en perspective. En effet, pensez-vous qu'un banquier demandera plus tard à votre enfant avoir son bulletin scolaire lorsqu'il voudra emprunter de l'argent? Croyez-vous que les A récoltés à l'école dicteront la somme qu'il pourra obtenir de sa banque? La réponse à ces questions est bien évidemment non. Les bonnes notes sont importantes, votre réussite à l'école est importante, votre capacité d'apprendre et votre intelligence sont également importantes. Mais une fois que vous aurez terminé vos études, les bonnes notes n'auront plus la même importance, avait pour habitude de dire à l'auteur son mentor. Tout comme avoir un bon bulletin scolaire à l'école, il est très important de posséder un excellent bulletin financier, aussi appelé état financier, plus tard dans la vie. C'est cet état financier, soit l'état de vos profits et pertes, qui intéressera les banquiers. Peu importe à leurs yeux que vous soyez riche ou pauvre, éduqué ou non instruit, seul comptera, une fois sorti de l'école, l'état de vos finances. Le problème, souligne Robert T. Kiyosaki, est que la grande majorité des gens n'a aucune idée de ce qu'est un état financier. Et pour cause, si à l'école les élèves se voient remettre à chaque trimestre un bulletin scolaire qui leur permet de prendre conscience de leurs forces et de leurs faiblesses dans les matières étudiées, dans la vie réelle, la plupart des adultes ne reçoivent jamais un bulletin scolaire financier trimestriel. C'est ce qui explique, selon l'auteur, qu'ils peinent souvent à joindre les deux bouts. Bien des gens ne se préoccupent pas vraiment de leur situation financière jusqu'au jour où ils perdent leur emploi, ont un accident, envisagent la retraite, et bien souvent, il est trop tard à ce moment-là pour s'en préoccuper. Poursuit Robert T. Kiyosaki. Bien que brillants à l'école, de nombreux individus pourraient très bien passer leur vie à obtenir de mauvaises notes sur le plan financier. Il est donc impératif que vous commenciez, si ce n'est pas déjà le cas, à jeter un œil à l'état de vos finances, et cela de manière régulière, afin de savoir si vos résultats sont bons ou mauvais et d'apporter des améliorations lorsque ce sera nécessaire. Une fois que vous maîtriserez cet exercice, apprenez-le à votre enfant, car cette connaissance se révélera indispensable plus tard. Comprendre le fonctionnement de ses états financiers lui permettra d'avoir davantage de contrôle sur ses finances, mais également de prendre confiance en lui dans ce domaine. Étape numéro 6. Les épargnants sont des perdants. Lorsque vous étiez jeune, vos parents avaient sans doute coutume de dire qu'il vous fallait obtenir de bonnes notes à l'école, décrocher un bon emploi, acheter une maison et épargner de l'argent. Mettre de l'argent de côté sur un compte en banque était alors perçu comme un bon moyen d'améliorer ses finances. Or, explique Robert T. Kiyosaki, cette formule ne serait plus adaptée à notre époque. À l'ère de l'information, votre enfant aura besoin de posséder des informations financières plus élaborées, qui iront bien au-delà du simple fait de déposer de l'argent à sa banque ou dans son régime d'épargne-retraite. Si l'auteur ne perçoit pas dans l'épargne un levier efficace vers l'indépendance financière, c'est tout simplement parce que l'épargne rapporte en moyenne 4% d'intérêt, mais que dans le même temps, le taux d'inflation progresse également de 4%. Résultat, votre épargne ne vous a pas permis d'améliorer votre situation financière. Pire, l'État impose des taxes sur les intérêts perçus, ce qui explique que vous perdez de l'argent, alors que votre objectif initial était d'en gagner. Ce qui fait dire à l'auteur que les épargnants sont au final des perdants. Loin d'être contre l'épargne, le mentor de Robert T. Kiyosaki est d'avis que de plutôt nonchalamment épargner de l'argent, il est préférable d'investir, ce qui générera davantage de rentabilité. Voici un exemple simplifié à l'extrême. Vous achetez par exemple un immeuble locatif à 100 000 euros et consentez à faire un apport initial d'un montant de 10 000 euros provenant de vos économies. Après une année, les revenus de cet immeuble, moins les versements hypothécaires, les taxes et autres dépenses, s'élèvent à 10 000 euros nets. En d'autres mots, vous avez récupéré vos économies de 10 000 euros et l'immeuble, qui représente un actif, continue de vous rapporter 10 000 euros chaque année. Vous pouvez dès lors utiliser les 10 000 euros de revenus annuels pour faire l'acquisition d'un autre bien, d'action ou créer une entreprise. C'est ce que certains nomment la vélocité de l'argent, soit la vitesse à laquelle vous recouvrez vos investissements initiaux. Ceux ayant une grande connaissance du mécanisme financier mettent en général toutes les chances de leur côté afin de récupérer leur mise de départ au plus vite pour pouvoir aller de l'avant et investir dans un autre actif. C'est l'une des raisons qui explique que les riches deviennent plus riches et que les autres, qui misent essentiellement sur l'épargne, peinent à améliorer leur situation financière. Enseignez à votre enfant à faire travailler son argent à son service. Une des raisons qui explique que les gens travaillent si dur, c'est qu'ils n'ont jamais appris à mettre leur propre argent à leur service. Résultat, ils travaillent dur toute leur vie, alors que leur argent ne leur profite aucunement. Une erreur que l'auteur souhaite vous éviter de reproduire avec vos enfants. Pour vous aider à enseigner à votre enfant les bonnes habitudes à prendre en matière de finances, Robert T. Kiyosaki vous encourage à faire avec votre enfant un exercice qu'il a appris de son mentor baptisé « le système des trois tirelires ». Comme son nom l'indique, il s'agit pour vous d'acheter trois tirelires et de les étiqueter de la manière suivante. La dîme. Le mentor de Robert T. Kiyosaki était convaincu qu'il fallait donner de l'argent à l'église et aux œuvres de charité. Il prélevait donc 10% de ses revenus et les dédiait à la dîme en disant « Dieu n'a pas besoin de recevoir, mais les êtres humains ont besoin de donner ». L'auteur souligne que la grande majorité des personnes les plus riches du monde s'astreignent à mettre 10% de leurs revenus dans la première tirelire avant d'en reverser son contenu à l'église. « Mon père riche me disait souvent que Dieu est ton associé. Si tu ne rémunères pas ton associé, il cesse alors de travailler, et il te faut travailler 10 fois plus dur », confie l'auteur. Les économies. La deuxième tirelire est quant à elle consacrée aux économies. En règle générale, il est nécessaire d'avoir suffisamment d'économies pour couvrir les dépenses de toute une année. Concrètement, vos dépenses annuelles, remboursement de prêts, crédit à la consommation, électricité, eau, etc., s'élèvent à 35 000 euros. Il vous faut donc à tout prix pouvoir mettre l'équivalent de cette somme de côté. Cela vous permettra de voir venir en cas de coup dur. Les investissements. C'est cette troisième tirelire, explique l'auteur, qui lui a donné un excellent avantage dans la vie. Cette tirelire lui a en effet fourni l'argent afin de prendre des risques. Il a ainsi pu commettre des erreurs, en tirer des leçons, mais surtout acquérir de l'expérience, lui permettant de progresser. L'un des premiers investissements de Robert T. Kiyosaki a été l'acquisition de pièces de monnaie rares. Il a par la suite investi dans l'immobilier. En procurant à votre enfant ces trois tirelires, vous pourrez lui fournir le capital de départ qui l'aidera à acquérir cette précieuse expérience dès son plus jeune âge. Cet exercice lui permettra en effet de développer de bonnes habitudes et, pourquoi pas, acquérir un petit portefeuille d'investissement. S'il peut paraître simpliste, le système des trois tirelires aidera votre enfant à découvrir ce qu'est la comptabilité, une aptitude qui lui sera d'une grande aide dans sa vie d'adulte. Pour ce faire, demandez-lui de justifier chaque utilisation qu'il fera de l'argent retiré de chacune des tirelires. Cela lui apprendra non seulement à rendre compte, mais également réaliser et maintenir à jour un état financier. Étape numéro 7. Accorder ou pas de l'argent de poche. C'est la question que se posent tous les parents. Donner ou pas de l'argent de poche aux enfants. S'il n'existe pas de réponse définitive à cette interrogation légitime, Robert T. Kiyosaki estime cependant que l'essentiel est ailleurs. En effet, le plus important est que votre enfant apprenne à être financièrement responsable. Qu'est-ce que l'argent de poche ? Il s'agit d'une somme d'argent donnée à l'enfant de manière régulière pour régler certaines dépenses personnelles. Il est très important, souligne l'auteur, de savoir dans quel cadre l'accorder et comment l'expliquer à votre enfant. Considère-t-il son argent de poche comme une allocation qui lui revient de droit ou alors comme une compensation acquise pour l'accomplissement de tâches ou de responsabilités acceptées d'un commun accord? Mais attention, Robert T. Kiyosaki prévient cependant contre la tentation qu'ont certains parents de vouloir acheter leurs enfants. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez recours à un tel stratagème, voyez-y un signal d'alarme. Car en faisant cela, vous transférez, sans le savoir, votre pouvoir parental entre les mains de votre enfant, prévient l'auteur. Ce dernier a ainsi mis au point une stratégie parentale afin de vous aider à savoir dans quelles circonstances accorder de l'argent de poche. Voici dans le détail. La responsabilité personnelle. Pensez à déterminer les tâches que votre enfant devra effectuer par rapport à ses soins d'hygiène personnelle et pour son développement. Par exemple, se brosser les dents matin et soir, faire son lit, ou encore mettre son assiette dans l'évier après les repas. Robert T. Kiyosaki vous déconseille d'accorder à votre enfant une récompense financière lorsqu'il s'acquitte de ses responsabilités personnelles. La responsabilité familiale ou sociale. Établissez la liste des tâches et autres corvées qui contribuent à l'amélioration de l'environnement social et familial. Cela comprend mettre la table pour le repas, lire une histoire au petit frère ou à la petite sœur, ou encore aider une personne âgée à transporter son sac de courses. Bien évidemment, ces bonnes actions ne doivent pas faire l'objet d'une récompense pécuniaire. Établir le montant de l'argent de poche, récompense financière. Établissez une liste de tâches et de corvées que devront effectuer vos enfants pour gagner leur argent de poche. L'objectif est de leur faire comprendre que cela ne leur revient pas de droit. Vous pouvez également leur demander de vous facturer les tâches qu'ils réalisent à la maison. Cela leur apprendra à être plus responsables. La question importante ici est de leur communiquer ouvertement vos attentes en ce qui a trait à leur prise de responsabilité. Encouragez l'esprit d'initiative de votre enfant. Encouragez votre enfant à trouver des moyens de gagner de l'argent. N'hésitez pas à l'amener à suggérer des tâches et même à partager des anecdotes sur la façon dont les autres enfants s'y prennent pour gagner leur argent de poche. Pensez à fixer le montant du paiement à l'avance pour l'accomplissement de chaque tâche. Vous l'aurez compris, la question de l'argent de poche ne doit être qu'un prétexte pour faire prendre conscience à votre enfant de sa responsabilité financière. Une fois ce principe intégré, vous pourrez ensuite leur enseigner les concepts de l'actif par opposition au passif ou encore la différence entre les revenus gagnés et les revenus de portefeuille. La responsabilité financière alliée à l'esprit d'initiative peut s'avérer une force très puissante. Aidez vos enfants à développer les deux, puis asseyez-vous et regardez-les remporter des succès financiers l'un après l'autre. Soutien Robert T. Kiyosaki. Étape numéro 8. Impliquez vos enfants. Le meilleur moyen pour votre enfant d'intégrer ce que vous lui aurez appris est encore de le mettre en pratique. C'est la raison pour laquelle Robert T. Kiyosaki vous exhorte à lui montrer comment vous mettez en pratique ces leçons à la maison. Vous pouvez par exemple lui permettre de vous assister lorsque vous réglez vos factures mensuelles. Vous n'avez bien évidemment pas besoin de tout lui révéler par rapport à vos finances, mais vous pouvez débuter par de simples exercices. En voici quelques exemples. Payez-vous en premier. Montrez à vos enfants que votre premier geste est de vous payer en premier, même s'il ne s'agit que de quelques euros. Expliquez que se payer soi-même consiste à investir cet argent dans des actifs, achat d'actions, investissement immobilier, épargne. À force de vous voir faire cela, il suivra très probablement votre exemple une fois adulte. Le paiement des factures. Expliquez vos factures de services publics et laissez votre enfant les examiner. Cela lui permettra de mieux comprendre comment vous utilisez votre argent. Voir que vous devez payer séparément l'électricité, l'eau, le gaz, le ramassage des ordures et d'autres dépenses d'ordre ménager lui fera prendre conscience du nombre d'entreprises dont vous avez besoin pour entretenir votre mode de vie. De nombreux parents qui ont mis en pratique cet exercice, fait ressortir l'auteur, ont expliqué que leurs enfants ont commencé à éteindre les lumières en sortant d'une pièce ou écourter leur douche. Le remboursement des hypothèques. Expliquez à votre enfant le concept de l'hypothèque en des termes très simples. Expliquez-lui par exemple comment la banque vous a aidé à acheter votre maison en vous prêtant de l'argent et comment vous la remboursez sur une certaine durée. Montrez-lui que le paiement de cette dette inclut le paiement du capital ainsi que des intérêts. N'hésitez pas à renouveler l'exercice tous les mois, mais également à en faire un suivi une semaine après. Demandez à votre enfant ce qu'il en a retenu, qu'il comprend les répercussions à long terme qu'entraîne le fait d'investir, d'acheter des actifs ou encore de se payer en premier. En mettant en pratique les conseils prodigués par Robert T. Kiyosaki, vous parviendrez sans aucun mal à faire de votre enfant des adultes financièrement intelligents et responsables. Plan d'action. 1. Pensez-vous que votre enfant possède une bonne éducation financière? Pourquoi? 2. Quelles sont les raisons qui vous poussent à vouloir inculquer à votre enfant une éducation financière? 3. Pensez-vous être vous-même suffisamment éduqué pour enseigner à votre enfant les bonnes habitudes en matière de finances? 4. Comment pourriez-vous pallier cette lacune? 5. Combien de temps vous donnez-vous pour y arriver? 6. Comment pourriez-vous vous y prendre pour préparer votre enfant à la dure réalité de la vie d'adulte? 7. Quelles sont les tâches et autres corvées pour lesquelles vous pourrez récompenser votre enfant si il ou elle les effectue? Avertissement, ce document des livres pour s'enrichir est une synthèse de l'ouvrage de référence susvisé, réalisé par nos équipes. Il a vocation à en ressortir les grandes idées de cet ouvrage et n'a pas pour finalité de reproduire son contenu. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, nous vous invitons à acheter l'ouvrage de référence sur Amazon. La couverture, les images, le titre et autres informations relatives à l'ouvrage de référence susvisé restent la propriété de son éditeur. Merci d'avoir écouté cet audio. N'hésitez pas à l'écouter encore et encore. Et à très bientôt pour la prochaine synthèse des livres pour s'enrichir.